autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour une plongée insolite dans les océans. À la découverte d'une extraordinaire biodiversité foisonnante, colorée et encore totalement méconnue. Car la vie est partout, dans les océans, même et surtout là où l'on ne l'attendait pas, jusque dans les plus grandes profondeurs, emplie d'une faune singulière d'étranges créatures qui peuplent notre imaginaire et celui de tous les peuples de la mer. Entre légende et réalité, comment vivent ces micros ou ces méga-organismes? Du calmar géant au plancton en passant par les étoiles de mer et les poissons des abysses, comment les recenser, les étudier et préserver cet océan de promesses? C'est ce que nous allons nous demander avec nos invités. Sarah Samadi, spécialiste de l'exploration de ces milieux extrêmes, Frédéric Schluss, ethnologue des milieux marins, et Nadia Amezian, qui dirige la station marine de Concarneau, autour de la question « Quelle vie dans les océans ?» Bienvenue. Bonjour Frédéric Schluss.
Bonjour.
Bonjour Sarah Samadi.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous autour de cette exposition actuellement au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Océan, une plongée insolite. Insolite, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour qualifier cette extraordinaire biodiversité marine encore largement méconnue, notamment pour ce qui est de la vie dans les grands fonds. Sarah Samadi, vous êtes professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, biologiste de l'évolution. Vous avez participé et coordonné de nombreuses missions d'exploration dans les grandes profondeurs océaniques. Il s'agit d'abord de découvrir et puis d'étudier ces formes de vie si singulières qui peuplent les abysses. 95% du vivant dans les océans est de taille microscopique, donc invisible à l'œil nu. On peut dire que tout reste à découvrir sur la vie, les vies dans ces milieux extrêmes, Sarah Samadi.
Alors oui, l'océan, ça reste une grande frontière de la connaissance sur la biodiversité. Et la principale raison, c'est que c'est que la mer, surtout dans les profondeurs, c'est un milieu qui est hostile pour nous, humains. C'est pas un milieu extrême en soi. Les animaux qui vivent au fond de la mer, ils y sont très bien.
Oui, et ça leur va bien.
Voilà. Et eux, ils trouveraient ça pas très agréable et confortable de venir sur Terre. Donc pour eux, ce serait le milieu terrestre qui est extrême, mais pour nous, c'est un milieu extrêmement difficile d'accès. Et on connaît moins bien ce qu'il y a au fond de la mer, on connaît moins bien les reliefs du fond de la mer que les reliefs de Mars ou de la Lune, par exemple.
Et oui, on les connaît moins bien, et pourtant, c'est là que se nichent peut-être des secrets sur nos origines. La vie est quand même née dans les océans. C'est ça que vous cherchez, entre autres, ou...
Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la connaissance de cette biodiversité qui est cachée et qui participe à notre histoire, à l'histoire évolutive de la biodiversité sur Terre, et puis qui participe à tous les grands équilibres écologiques, en fait.
À ne pas oublier, Frédéric Schluss, vous êtes ethnologue, anthropologue, professeur à l'Université de Bretagne Sud, vous étudiez... Non,
professeur au muséum également.
Professeur au muséum, excusez-moi, donc vous êtes toutes les deux au muséum. On en est ravis. Vous étudiez en tout cas les relations entre les hommes et les milieux marins. Hein, c'est ça, les hommes et leurs milieux. Que ce soit en Bretagne ou en Polynésie, tous les peuples de la mer vous intéressent. Ils ont des savoirs et des représentations qui pourraient peut-être aussi inspirer alors, les chercheurs, la recherche ou nos connaissances sur cette terre inconnue, ces terres inconnues que sont les océans.
Alors effectivement, beaucoup de sociétés humaines ont pensé les milieux marins, alors les ont parfois fantasmés hein, en imaginant les créatures qui pouvaient être présentes au fond de la mer, et certaines d'entre elles les connaissent, en tout cas pour ce qui est leur est accessible. Quand les sociétés, les humains pêchent, ils savent ce qui remonte, donc c'est des profondeurs qui ne sont pas des profondeurs extrêmes. Là on est plutôt dans l'ordre du mythe, des grands mythes fondateurs où on peuple les océans avec des créatures fantastiques.
Partout sur Terre, on a peupler les océans.
Oui. En fait, les grands fonds étaient méconnus par les scientifiques, mais ils étaient pensés par les différentes sociétés qui voyaient des dragons ou qui voyaient toute une société de dieux qui vivaient au fond de la mer et donc qui organisaient l'espace marin. Mais en dehors de ces grands mythes de construction du monde, beaucoup de sociétés connaissent ce qui est à leur portée, en fait, l'ensemble des organismes qui remontent quand ils pêchent, quand ils chalutent, et y compris les fonds marins, mais qui leur sont accessibles. Bien évidemment, pas les fonds très très profonds.
Ils ont une connaissance particulière, une familiarité avec ce terrain. Autour de la question qu'elle vit dans les océans, nous sommes également en ligne par Skype, depuis la station de biologie marine de Concarneau, avec Nadia Méziane. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Alors vous êtes biologique, c'est vous qui dirigez cette station de biologie marine de Concarneau. Vous êtes spécialiste des échinodermes. Alors c'est une étrange famille d'animaux marins qui comprend quelques-uns qu'on connaît, les étoiles de mer, les oursins, les concombres de mer, et puis les crinoïdes, c'est ça ? Quelle est leur particularité ?
Alors oui, les crinoïdes, et notamment on a des crinoïdes très particuliers qu'on appelle des crinoïdes pédonculés et qui ressemblent en fait à des plantes. Et au départ, les premiers naturalistes les ont décrits comme des plantes et les ont appelés les lys de mer. Et l'autre particularité, c'est un animal que les scientifiques connaissaient auparavant essentiellement sous forme fossile. Et on a fait la découverte de l'animal actuel qu'à partir de 1791. Donc c'est assez récent dans nos connaissances.
Et cet animal
était connu des pêcheurs des Caraïbes qui les pêchaient de temps en temps pour les formes les moins profondes. Et pour eux, c'était des plantes.
Et oui, c'est ça, parce qu'on peut se demander, c'est quoi ? Ce sont, vous dites des animaux, mais c'est du vivant fixé, c'est ça ?
C'est du vivant fixé, qui est dans le même groupe que les oursins, les étoiles de mer, donc qui ont les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui vont vivre fixés sur le fond, mais qui ont la particularité, tout comme les oursins ou les étoiles de mer ou les concombres de mer, d'intégrer l'eau de mer dans leur corps afin de pouvoir respirer, s'alimenter et pour les formes qui se déplacent, se bouger. Donc une caractéristique unique dans le règne animal qui fait qu'on regroupe tous ces organismes ensemble sous le terme d'échinoderme.
Autour de la question qu'elle vit dans les océans, je ne sais pas s'il faut mettre un point d'interrogation ou un point d'exclamation, les deux peut-être. En tout cas, on quitte la surface tout de suite pour plonger jusque dans les grandes profondeurs, dans les milieux les plus extrêmes, pour nous en tout cas, où les chercheurs, à leur grande surprise, ont découvert qu'il y avait là aussi de la vie et même plein d'autres formes de vie foisonnantes dans ces sources hydrothermales. Je propose à ce sujet d'écouter l'éclairage du spécialiste Pierre-Marie Saradin.
Il y a de la vie dans tous les océans. Une des premières surprises du submersible qui a plongé à 11 000 mètres de profondeur dans les années 70, c'était, quand on regarde le film Océanaute, il dit « on a vu un poisson, c'était le signe qu'il y avait de l'oxygène ». S'il y avait de l'oxygène, ça voulait dire que l'océan circulait. Donc effectivement, il y a de la vie partout, à toutes les profondeurs, et on a même découvert très récemment de la vie dans des carottes de sédiments à plus de 1900 mètres sous le plancher océanique. Les dernières estimations, il y a un projet international qui s'est terminé il y a 2-3 ans, a essayé de recenser toute la vie marine. On connaît actuellement 250 000 espèces. L'estimation prévoirait qu'on a encore à en découvrir entre 1 et 10 millions. On a encore beaucoup de travail.
Tout reste à découvrir, vous êtes d'accord avec Pierre-Marie Saradin, Sarah Samadi ?
Oui, tout à fait. On décrit à peu près 2000 espèces marines chaque année.
Espèces nouvelles.
Les espèces nouvelles.
Enfin, alors, pour nous, voilà.
C'est des choses qu'on n'avait jamais rencontrées et auxquelles les spécialistes vont décider d'attribuer un nouveau nom. On en récolte plus que ça, mais il faut du temps pour les étudier. Et c'est difficile d'estimer combien il y en a, parce que nos estimations, elles se basent sur ce qu'on connaît. Par définition, on a exploré qu'une très petite surface de l'océan, donc il y a des tas de milieux qu'on connaît très mal, où on a été très peu, parce que c'est très difficile d'accès. Donc,
dans ces sources hydrothermales, on a été très surpris de découvrir une biodiversité foisonnante. Est-ce qu'il y a des endroits dans l'océan où il y a plus de vie, des endroits où il y a plus de biodiversité, des endroits où il y a des espèces plus inconnues ou trop compliquées pour nous pour arriver à les recenser, à les voir simplement ?
Alors en fait, on a été surpris sur la raison pour laquelle on a été surpris par les sources hydrothermales, c'est que on s'est retrouvé au fond de la mer, au pied de volcans qui dégageaient des tas de toxiques, fluides toxiques et puis de la chaleur, on a trouvé une vie abondante avec des formes qui semblaient à première vue complètement différentes de ce qu'on connaissait ailleurs. Donc c'est ça qui a surpris. C'était cette quantité et des conditions qui sont différentes du reste du fond de la mer, parce que dans l'ensemble, au fond de la mer, il fait froid, il n'y a pas de lumière, il y a un certain nombre de conditions, et là, dans ces sources hydrothermales, on a des conditions très différentes, et il y a une vie en abondance. Globalement, dans le reste de l'océan, la nutrition, elle arrive de la surface et elle est produite par la photosynthèse, c'est-à-dire le microplancton, mais aussi le zooplancton, les baleines, les arbres qui sont sur les forêts tropicales. Tout ça, ça finit à un moment ou à un autre, plus ou moins vite, au fond de la mer. Et ça donne à manger, en fait, à ceux qui habitent, à des animaux qui habitent au fond.
Et à quoi ils ressemblent, je pense, les animaux, à quoi ça ressemble, le fond de la mer? Enfin, j'imagine que c'est pas du tout pareil partout, qu'il y a plein de fonds de la mer différents.
Voilà, c'est ça. C'est que, en fait, le fond de la mer, c'est très. C'est des paysages très variés. C'est pas du tout aussi monotone qu'on pourrait le croire. Il y a beaucoup plus de relief au fond de la mer que sur Terre. La profondeur moyenne des océans, c'est 4000 mètres. On descend jusqu'à 10 000 mètres. Le dénivelé moyen au fond de la mer, c'est 2000 mètres. Enfin, alors que sur Terre, c'est à peine 800 mètres. Donc c'est vraiment très différent comme paysage. C'est beaucoup plus accidenté.
Et il y a des formes de vie très différentes selon les étages.
Alors, selon les profondeurs, mais pas seulement, selon les conditions. En fait, quand on a une plaine abyssale avec du sédiment, où on a surtout de la faune très discrète qui vit dans le sédiment, et puis quelques gros poissons ou un calamar qui va passer, on peut avoir des espèces de pics rocheux qui perturbent les flux océaniques, et ces pics rocheux, en fait, en perturbant les courants, ils vont favoriser la photosynthèse en surface, ce qui va faire retomber à manger sur le fond, et puis en haut de ces espèces de pics rocheux, on va avoir toute une faune fixée, dont les crinoïdes, mais aussi des éponges, des gorgones, des coraux.
Les gorgones.
Voilà, donc des espèces de... ça ressemble beaucoup à des plantes, tout ça, mais ça ne fait pas de photosynthèse, ça récupère ce qui tombe de la surface, et puis ça fait des perchoirs, des habitats pour toute une autre faune, donc des crustacés, des mollusques, des tas d'animaux qui vont être associés, qui vont vivre sur un système, un peu comme dans les récifs coralliens. Donc on va avoir, suivant les conditions, les masses d'eau, les températures, les courants, on va avoir des paysages en fait très différents. On va avoir ces grandes plaines qui ressemblent à quelque chose d'assez désertique, avec une vie cachée dans les sédiments, et puis ces espèces d'oasis sur ces pics qui ressemblent à des îles, en fait, mais sous-marines. Et puis ces volcans sous-marins qui hébergent des milieux hydrothermaux. Donc c'est en fait très varié.
Il y a une aussi grande biodiversité que sur Terre, finalement, peut-être même plus. Alors, comment vous diriez ça?
En nombre d'espèces, moins. On s'attend à moins d'espèces dans la mer que sur Terre, en tous les cas dans les décomptes et les estimations qui ont été faites. Alors, cette différence, elle repose essentiellement sur le fait que sur Terre, il y a les insectes, et que les insectes, ils sont fichtrement diversifiés.
Et ce sont eux qui représentent cette phénoménale diversité
par
sur
contre,
Terre.
En nombre d'espèces. Par contre, si on regarde un autre critère, qui est la diversité en nombre de lignées, qui représente la diversité de l'histoire évolutive. En fait, il n'y a quasiment aucune lignée qui n'est présente que sur Terre. Presque toutes les lignées sont présentes dans la mer, et certaines ne sont présentes que dans la mer, comme par exemple les échinodermes que étudie Nadia. Alors ceux-là, ils ne sont jamais sur Terre.
Précisément, Nadia, justement, étudier ces échinodermes, c'est étudier une autre forme de vie qui est toujours liée à l'océan. Nadia Amezan.
Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, il y a une petite coupure.
Pas de souci, parce que je rappelle que vous êtes par Skype avec nous depuis Concarneau. Oui. Ma question, elle portait justement sur ces échinodermes. Est-ce que ces organismes-là, vous les étudiez aussi parce qu'ils sont uniquement dans l'océan? Parce qu'il n'y a pas de représentants, ils ont absolument besoin de l'océan pour vivre, ces animaux fixés qu'on a longtemps pris pour des plantes?
Alors, c'est pas la raison première. Il faut savoir qu'au départ, j'étais une paléontologue. Et je me suis intéressée aux formes fossiles qui constituaient des roches bien particulières, qui pouvaient être des roches réservoirs de pétrole et qui servaient aussi à faire des roches de construction. Et c'est parce que je les ai étudiées sous forme fossile que j'ai été intéressée par ces spécificités de ces organismes et que je me suis penchée sur les formes actuelles.
Et on savait que, qu'il existait autant de formes actuelles par rapport aux formes fossiles. C'était une surprise, ça? Ils sont étudiés, ces organismes-là, ou...
Alors oui, ils sont étudiés. C'est un peu compliqué comme histoire. Au cours du Paléozoïque, hein, donc dans les premières ères géologiques, il y avait une grande diversité de crinoïdes pédonculés. Et au moment de
De ces animaux fixés qui ressemblent à des plantes.
Seules quelques espèces ont passé ce cap-là. Et on a vu de nouvelles espèces de crinoïdes pédonculés apparaître. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elles se sont pas mal installées dans les grandes profondeurs. Ce qui fait que quand on fait des campagnes, effectivement, quand on est à partir de 600 mètres de profondeur, on peut en avoir jusqu'à 4, 5, voire 6 000 mètres de profondeur, eh bien, en termes d'espèces, on a pas mal de diversité de ces formes-là.
Et oui, ce ne sont pas les mêmes, j'imagine, entre ceux qu'on peut voir à la surface, les étoiles de mer ou les concombres de mer ou les oursins, et ceux qu'on trouve dans les grandes profondeurs, ou c'est les mêmes familles, ça, ils se ressemblent, ou vous pourriez nous en décrire, un peu particulier peut-être?
Alors, on a des crinoïdes en milieu littoral, mais qui n'ont pas de tiges, qui n'ont pas de pédoncules. C'est ce qu'on appelle les valseuses de la mer, parce qu'elles se déplacent en se nageant, et c'est très très gracieux.
Les valseuses de la mer.
C'est un organisme avec plein de bras qui évoluent de façon gracieuse dans l'eau de mer. Alors, on retrouve aussi ces formes-là en profondeur. J'allais dire, en morphologie externe, vous avez l'impression... Elles se ressemblent. Et puis, quand vous regardez dans le détail des caractères morphologiques ou même du comportement, vous voyez des différences. Et là, vous vous apercevez que on a des espèces qui sont différentes. Et c'est d'ailleurs mis en évidence par les études moléculaires. Et on a la même chose pour les étoiles de mer. C'est-à-dire qu'on va avoir des étoiles de mer peu profondes qui sont caractéristiques des milieux littoraux et des étoiles de mer qu'on va trouver en plus grande profondeur qui vont être différentes avec des caractères morphologiques différents, des comportements différents. Très souvent, les étoiles de mer des milieux profonds vont être des espèces très opportunistes, c'est-à-dire qu'elles vont se nourrir, elles vont être des carnivores, mais elles vont se nourrir aussi d'organismes morts. Elles seront capables de même filtrer ou de s'attaquer un peu, comme il y a peu de ressources, à tout ce qu'elles trouvent pour se mettre... sous la dent, entre guillemets.
Oui, parce qu'elles ne peuvent pas bouger. Hein. On le rappelle, ce sont des animaux fixés autour de la question quelle vie dans les océans depuis la surface jusque dans les plus grandes profondeurs. Allez, on écoute Gaëtan Roussel qui lui reste au bord des océans.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Nous plions tous sous le vent. Si fragile, scintillant, serions-nous juste une étoile, un filament qui brille puis casse sous le temps? Serions-nous tous simplement faits d'argile, de suppléments? Serions-nous juste à l'orée sur le flanc des falaises au bord des océans? Serions-nous juste une bulle, un diamant qui scintille au fond des océans? Serions-nous lignes élégants, courbant l'échine, impatients? Serions-nous tous tout petits rayonnants à l'horizon comme juste là devant? Serions-nous tous simplement faits d'argile, de suppléments? Serions-nous juste à l'orée sur le flanc des falaises au bord des océans?
Au bord des océans avec Gaëtan Roussel et Joseph Dayan sur RFI. Autour de la question quelle vie dans les océans et comment les étudier, toutes ces formes de vie plus extraordinaires les unes que les autres avant qu'elles ne disparaissent, je vous propose d'écouter l'éclairage assez radical du plongeur océanographe François Sarano, spécialiste et grand ami des cachalots qui était récemment notre invité.
Comment peut-on analyser un milieu qui a déjà été modifié très profondément avant même qu'on commence l'exploration, en diminuant la quantité de nourriture qui y tombe? En deux mots, les animaux profonds, qui aujourd'hui sont, on dit, disons, très dispersés, il n'y en a pas, c'est des grandes plaines abyssales vides, mais c'est parce que toute la nourriture qui tombait de surface, les baleines, les cachalots, les thons, les requins, ils ont été pêchés. Et donc on a privé les abysses d'une nourriture quotidienne, abondante, qui restait pendant des semaines pour nourrir des centaines de requins, des centaines d'animaux. Et avant que nous exploitions l'océan, le fond de la mer était pavé de cadavres. Le fond de la mer était grouillant d'individus. Or, aujourd'hui, nous étudions des écosystèmes qui sont des situations d'après-guerre. Et donc, il est très difficile d'en parler et de connaître réellement ce qu'était la richesse originelle, enfin originelle, même avant l'exploitation industrielle. Il y avait des milliers de phoques qui tombaient au fond, des milliers de baleines, des milliers d'animaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne met pas en avant. Alors, on va parler des sources hydrothermales qui étaient, bon, des trucs qui sont isolés. Mais avant, on passait l'un à l'autre. Tout était, le fond de la mer était plein de cadavres qui servaient de nourriture. Ah ben, aujourd'hui, c'est fini. Et la difficulté qu'on a, nous, éthologues ou biologistes, c'est qu'on étudie des écosystèmes qui sont soit en reconstruction, comme les cachalots, les cétacés, ou pardon, des écosystèmes, des populations, soit qui sont complètement dégradés. Et donc, on ne peut pas les comprendre.
Vous voulez réagir, Sarah Samadi, au point de vue assez radical de François Sarano, éthologue spécialiste des cachalots?
Alors, c'est intéressant qu'ils disent ça, parce que souvent, les gens qui travaillent sur ce qu'on appelle les grands pélagiques, tous ces gros animaux qui vivent en surface et assez emblématiques, ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe au fond de la mer et des liens que ça a. Donc, c'est intéressant qu'il en parle. Et puis, c'est intéressant aussi qu'il pointe justement ce que je disais tout à l'heure, alors le lien qu'il y a entre la surface et le fond, il y a une dynamique. Donc là, il parle du côté où la surface nourrit le fond, mais à l'inverse, il y a aussi des effets sur ce qui se passe en surface. La plupart des organismes, donc ces crinoïdes fixés par exemple, les gorgones, tout ça, ils vivent à l'état adulte en fait, fixé, mais à l'état de larves, ils passent par une forme larvaire qui est souvent dans la partie planctonique en fait. Donc il y a des liens comme ça, il y a des dynamiques. Donc après, est-ce que ce qu'on étudie aujourd'hui est très modifié? Alors par rapport à quand, par rapport à quoi?
Oui, il n'y a pas de temps zéro de toute façon.
Il n'y a pas de temps zéro. C'est sûr qu'il y a moins de cadavres de baleines au fond de la mer aujourd'hui qu'il y a 200 ans. C'est sûr qu'il y a des modifications. Après, il y a l'autre aspect qui est intéressant dans ce qu'il disait, c'est qu'il mentionnait le contraste entre ces cadavres de baleines et les sources hydrothermales. Il y a quelque chose d'autre qu'il ne mentionne pas, mais qui est important, c'est que en fait, ces grands cadavres de baleines, mais aussi le bois qui se retrouve au fond de la mer, en fait, ça crée sur le sédiment des conditions un peu particulières parce que il y a beaucoup de molécules difficiles à dégrader dans le bois, donc et dans les lipides qu'il y a dans les eaux de baleine, et que ça crée un environnement très particulier qui permet la chimiosynthèse, et ça ressemble aux sources hydrothermales, et il y a plein d'organismes qui sont présents sur ces cadavres de baleines, sur ces bois à un certain stade de décomposition qui alimentent d'un point de vue de l'évolution la faune hydrothermale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organismes des faunes hydrothermales dont l'origine évolutive est ce milieu très particulier que sont la dégradation des grands cadavres animaux et des bois coulés. Donc il y a un lien évolutif en fait, qui a été très méconnu mais qui est très intéressant.
Et oui, et c'est ça qui ressort aujourd'hui, c'est que finalement c'est ce lien, cette interdépendance, cette dynamique d'océan. C'est pour ça aussi que vous organisez des expéditions pour aller jusque dans les grands fonds Comment ça se passe, ces expéditions? Pourquoi? Pour recenser, repérer, redécouvrir finalement, puisque Nadia nous disait qu'elle avait commencé par étudier des fossiles hein, de ces animaux et qu'on a ensuite redécouvert, hein, entre guillemets, ou qui existaient, qu'on croyait disparus, qui existaient au fond de la mer. C'est pour pouvoir recenser tout ça?
Alors, donc les naturalistes, ils aiment bien faire un côté de catalogue, on veut connaître tout ce qui existe, et donc il y a une motivation comme ça chez les naturalistes qui existe, et forcément, ces endroits où on n'a jamais été, il y a forcément des espèces qu'on connaît pas, donc ça, c'est une motivation, mais il y a, au-delà de juste cette motivation, il y a aussi le fait que pour comprendre l'histoire évolutive, pour comprendre la dynamique, on a besoin d'aller dans ces endroits qu'on ne connaît pas. Et quand on a découvert les sources hydrothermales, par exemple, ça a beaucoup nourri les fantasmes des chercheurs qui ont vu quelque chose comme on a trouvé l'origine de la vie. Et il y a eu beaucoup de théories, beaucoup de là-dessus. Et en fait, ces théories, elles étaient basées sur une méconnaissance du reste des choses qu'il y a dans l'océan, et en particulier justement ces organismes plus discrets qui habitent ces accumulations de bois ou ces cadavres de baleines. Et en fait, le fait d'aller explorer vers ces milieux moins spectaculaires à première vue, ça a permis de revoir complètement l'origine évolutive de ces organismes un peu spectaculaires des sources hydrothermales, qui sont en fait que des organismes modifiés, certes, mais proches en fait d'organismes qui vivent ailleurs et de façon plus discrète dans la mer. Donc aller chercher au fond de la mer, explorer ces endroits inconnus, ça permet de tester ces hypothèses. Et effectivement, donc Nadia mentionnait tout à l'heure que une des motivations qui l'a fait devenir biologiste après avoir été paléontologue, c'est que au fond de la mer, on découvre des choses que on a d'abord découvert dans les fossiles, parce que c'est plus facile d'aller regarder des pierres en haut des montagnes que d'aller regarder ce qui vit au fond des océans.
Et ce qui vit toujours au fond des océans. C'est quand même ça qui est assez étonnant et qui a dû vous étonner aussi, Nadia, parce que vous aussi, vous participez à des expéditions pour aller découvrir des espèces qu'on croyait finalement disparues, enfin qu'on croyait qu'il y avait existé, qu'on retrouvait à l'état de fossile, mais qu'on a mis beaucoup de temps à découvrir pour de vrai dans les fonds sous-marins.
Oui, c'est vrai que quand on est à bord des bateaux, je suis assez très souvent avec Sarah sur ces campagnes-là, c'est très stimulant de découvrir ces organismes. Alors, quand ils arrivent à bord, ils sont plus vivants. Donc là, c'est le côté qui est un petit peu moins stimulant, mais du coup, on les découvre, on va pouvoir les décrire. Mais le côté très stimulant, après, c'est de les voir en vidéo. On fait de plus en plus de campagnes avec des outils qui nous permettent de filmer les organismes dans leur lieu. Et là, c'est que du bonheur de voir ces organismes, comment ils se comportent, les relations qu'ils ont avec les autres organismes, voir fonctionner cet écosystème.
C'est un écosystème. Vous parlez de relation, Nadia, mais une relation entre des animaux fixés, des étoiles de mer, des concombres, voire des ce qu'on aurait pris pour des plantes. C'est quoi leur relation?
Comme le disait Sarah tout à l'heure, ces organismes fixés servent d'habitat, sont des vrais HLM en fait. Il y a des tas d'autres organismes qui viennent provisoirement ou de façon plus définitive et qui profitent de ce support pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir se reproduire. Donc c'est tout un petit écosystème qu'on va avoir sur ces organismes fixés. Et il suffit de regarder par exemple les récifs coralliens en milieu tropicaux, et bien on a exactement la même chose sur des tas d'autres organismes. Donc on observe ces relations et on s'aperçoit, ça va même plus loin, on s'aperçoit qu'il y a de la communication entre ces organismes, soit chimique, soit enzymatique, et donc les relations sont beaucoup plus poussées que ce qu'on pensait au départ.
D'où l'intérêt de les observer vivants dans leur milieu, autour de la question, quelle vie dans les océans. Je propose d'accoster maintenant du côté des Marquises, le chapelet d'îles le plus éloigné du continent, dans l'océan Pacifique, pour une plongée insolite et musicale dans les chants marquisiens avec cet extrait de la chorale du collège Atwana sur l'île d'Ivaoa.
Oh,
La chorale du collège Atwona sur l'île d'Ivaoa dans l'archipel des Marquises. Vous êtes bien à l'écoute de RFI. Autour de la question « Quelle vie dans les océans ?» et Frédéric Schultz, vous qui êtes ethnologue, anthropologue, qui travaille sur les liens entre les peuples de la mer et leur milieu, vous pouvez presque nous traduire cette chanson. Vous avez rencontré ces collégiens de l'île d'Ivaoa, que je ne connais pas dans les Marquises. Ivaoa, pardon.
Ivaoa. Traduire, non, ce serait quand même beaucoup dire, mais effectivement, on voit bien qu'ils parlent de leur territoire, de leur maison et des hommes qui peuplent ce territoire.
Et des hommes qui sont des hommes et des peuples de la mer, ils connaissent extrêmement bien leur mer.
Oui, qu'ils la connaissent extrêmement bien parce que c'est un peuple qu'ils se qualifient peuple de l'océan. Alors là, on n'est pas sur le mot mer, mais sur le mot océan parce qu'ils ont peuplé ces îles. Ce sont des grands navigateurs qui ont peuplé depuis l'Asie du Sud-Est l'ensemble des îles du Pacifique grâce à leur connaissance de la navigation, connaissance aussi des étoiles qui leur permettaient de
se naviguer, déplacer. De se repérer.
Voilà, connaissance aussi des oiseaux, ils se servaient beaucoup des oiseaux. Donc une très très grande connaissance et c'est une population comme d'autres, évidemment, mais c'est une population qui vit vraiment avec un lien très fort avec la mer qui l'entoure.
Et pour eux, c'est quoi ? Enfin, c'est évidemment, ils sont pêcheurs, c'est évidemment une source de nourriture, mais c'est aussi, enfin, on imagine beaucoup plus que ça, la mer. C'est tout un héritage culturel, c'est toute une culture.
Oui.
Enfin, l'océan, pardon.
L'océan. Oui, là, ils parlent de l'océan. Mais c'est vrai aussi dans d'autres sociétés, mais... Quand les différentes sociétés ont un lien avec la mer, ce lien, c'est évidemment la pêche pour se nourrir. Mais pour pêcher, il faut avoir un certain nombre de savoirs, de connaissances, des connaissances qui sont des connaissances éthologiques, écologiques, des connaissances des fonds marins sur lesquels ils se déplacent, des connaissances aussi pour des ruses, on va dire, c'est la métisse, la ruse pour pouvoir pêcher.
Et, oui.
Et au-delà de la pêche, le milieu marin, c'est aussi un milieu qui est extrêmement important parce que ça sert à se soigner. Ça sert aussi à faire un certain nombre d'objets, d'artisanat. Il y a beaucoup de parures en vertèbres d'un certain nombre d'espèces. C'est vraiment extrêmement utilisé. Il y a tout l'art culinaire aussi, comment on prépare, comment on conserve le poisson. Et il y a beaucoup de choses. Et au-delà de ça, d'un point de vue plus langue, c'est aussi des mots, des noms pour désigner l'ensemble des espèces.
Ah, ils ont certainement plus de noms de poissons. De poissons et d'animaux marins que nous.
Il les désigne, alors il les désigne différemment que nous, mais il les identifie et il les classe aussi. Mais un poisson peut avoir un poisson, ce que j'appelle un poisson...
Vous n'êtes pas biologiste, vous êtes ethnologue.
Voilà. Je regarde mes anthropologues. Ma collègue biologiste peut avoir différents noms parce que parfois il a des noms différents en fonction des stades d'évolution. Et donc les mots dans la langue aussi sont extrêmement importants. Et au-delà de ça, c'est tous les grands récits, les grandes légendes qui entourent le milieu marin.
Et oui, les grandes légendes, justement. Là, si on redescend dans les fonds et dans les abysses, ces peuples des océans, des îles Marquises, de la Polynésie, ils ont toujours su qu'il y avait de la vie, des vies, des formes de vie et certaines créatures gigantesques au fond des océans.
Oui, alors ils les connaissent pour certaines très bien. Et effectivement, sinon ils imaginent ou ils récitent. Il y a un récit, en fait, ce qu'on appelle une cosmogonie, c'est comment le monde a été créé et quelles sont les relations entre les différentes espèces. Et le calmar, notamment, qui peut être effrayant en Europe, est plutôt vu comme bénéfique dans ces peuples, au niveau de ces populations.
Le calmar géant, autour de la question « Quelle vie dans les océans ?» Je propose justement un petit raccourci qui passe par un calmar géant. Il s'appelle Wiki, il est exposé au Muséum d'Histoire Naturelle. Il a été pêché en 2000 et c'est le seul spécimen naturalisé au monde de calmar géant. C'est le plus grand céphalopode connu. Wiki est présenté dans l'exposition « Océan, une plongée insolite » au Muséum National d'Histoire Naturelle. Écoutez son histoire.
Il était une fois une tribu de pêcheurs polynésiens qui vivaient heureux dans leur île. Un jour, ils furent dérangés par un calmar géant appelé Teweke Omuturangi. Ce calmar avait pris la déplorable habitude de dévorer les appâts des pêcheurs et de les empêcher de nourrir leur famille et les guerriers de la tribu. En pourchassant Teweke à travers les mers, les navigateurs polynésiens découvrirent une île nouvelle, la Terre du Long Nuage Blanc, appelée aujourd'hui Nouvelle-Zélande. Le 27 janvier 2000, au large de la Nouvelle-Zélande, par 615 mètres, un calmar géant est pris dans les filets d'un pêcheur. Ce pêcheur a la bonne idée de prévenir immédiatement Steve Oshie, grand spécialiste des calmars en Nouvelle-Zélande. Baptisé Weke, en hommage à son ancêtre mythique, ce calmar commence un nouveau voyage, car Steve Oshie a proposé d'en faire don au Muséum National d'Histoire Naturelle à sa collègue Renata Boucher. Dans la grande galerie de l'évolution, Weke, qui mesure plus de 6 mètres de long, devra être montré comme s'il était dans son milieu naturel. Le muséum va confier la sauvegarde de Weke à un laboratoire italien. Les médecins du laboratoire Visdocta Research, près de Venise, ont mis au point un procédé nouveau et secret. La plastination consiste à déshydrater l'animal pour le vider de toute substance liquide et les remplacer par une solution rigidifiante. Finalement, 8 ans après sa capture, Weke, ressuscité, est présenté au public dans la grande galerie de l'évolution du Muséum national d'histoire naturelle.
L'histoire de Weke, non pas Wiki, je m'excuse auprès du calmar géant. L'histoire de Weke à découvrir en bande dessinée sur le site de l'exposition Océan, une plongée insolite autour de la question quelle vie dans les océans, ces créatures gigantesques. Frédéric Schluss, il ne faisait pas peur aux Polynésiens ou dans leur légende, dans leur imaginaire, dans leur cosmogonie, ça peut être des êtres bénéfiques. C'est plutôt, il peuplait plutôt les cauchemars des marins occidentaux.
Oui, alors. Ça dépend des différentes cultures, bien évidemment, sûr. Mais c'est vrai que le calmar n'est pas forcément maléfique. Il y a, vous avez parlé de Ivaoa tout à l'heure, une des îles des Marquises. Il y a 6 îles habitées aux Marquises et il y a une des îles, Tawata, qui a la forme d'un calmar. En fait, c'est pas la forme, mais on voit que les différentes vallées sont séparées par les bras du calmar. Le sommet de cette île serait la tête et les bras seraient l'ensemble des vallées. Et dans chaque vallée, il y avait une tribu qui vivait à ce moment-là. Et donc, on voit que le calmar a permis aux hommes, donc que cette vallée, que cette île émerge, et aux hommes de l'habiter. Donc, ça peut être très bénéfique, comme le requin, qui n'est pas forcément un animal qui fait peur, mais qui est source de pouvoir, de force. Et donc, on voit que l'ensemble des grands animaux peuplent tout l'ensemble des récits et des légendes en Polynésie. Mais comme ils les peuplent ailleurs, et à chaque fois, chaque société construit une relation qui est singulière avec les différentes espèces. Mais en Polynésie, oui, c'est pas forcément la crainte que l'on pouvait avoir. Peut-être parce qu'ils les connaissaient mieux en Europe. En fait, l'espace marin a été longtemps considéré comme un espace quand même très austère, voire malsain. Quand au niveau des côtes, on le connaissait très mal. Donc, c'est vrai qu'on en avait peut-être un peu peur. Et puis, c'est empreint de judéo, toute la religion, oui, judéo-chrétienne, qui quand même nous apporte un certain recul ou une certaine marge avec ce milieu.
Est-ce que le savoir, Sarah Samadi, de ces peuples de l'océan ou de la mer, leur connaissance au fond intime, hein, familière, des fonds et des grands fonds, ça peut aider ou on peut travailler en collaboration avec des chercheurs pour mieux connaître cette terre inconnue qu'est l'océan ?
Alors, la connaissance des populations depuis longtemps, elle est très dépendante des besoins.
Bien sûr.
Donc, effectivement, il y a une connaissance très étendue de la diversité de tout ce qu'on appelle communément poisson, qui inclut des lignées un peu différentes, que sont les poissons osseux d'un côté, et puis tous les requins et raies de l'autre. Ce qui est notable, c'est que souvent, et ça on l'a aussi en botanique, en milieu terrestre, c'est qu'il y a quand même une coïncidence assez forte avec la façon dont les scientifiques occidentaux décrivent la diversité. Il y a une bonne congruence. Mais le point qui est intéressant, je pense, c'est que quelles que soient les populations humaines, ce qui fait qu'on On va souvent vers des milieux parce qu'il y a un intérêt pratique à y aller.
Bien sûr.
La connaissance, ce qui a initié les grandes expéditions sur les grands fronts de la fin du 19e siècle, c'est la découverte que quand on a mis des câbles téléphoniques à travers les océans, qu'on a dû les remonter pour les réparer, on s'est rendu compte qu'il y avait des tas d'organismes fixés dessus, alors qu'on croyait, on avait une, comme il y avait de moins en moins de choses quand on descendait dans, profondément dans les chaluts, on avait un peu tiré rapidement des conclusions en disant ben, au-delà d'une certaine profondeur, c'est plat, il n'y a rien. Et ces câbles, ils nous ont appris qu'il y avait des choses. Et du coup, ça a initié le fait d'aller regarder des choses. Donc, il y a toujours un espèce d'aller-retour entre on y va parce qu'on a un intérêt et ça suscite la curiosité, donc on y retourne.
L'émerveillement aussi aujourd'hui, où il faut autant que ça préserver, protéger les océans, c'est aussi peut-être notre intérêt que d'aller encore découvrir ce qui s'y cache autour de la question qu'elle vit dans les océans. Je propose justement un dernier éclairage sur cet océan de promesses. C'est celui de la conceptrice de cette exposition, Une plongée insolite au muséum, Anne-Camille Bouillet, extrait d'un reportage diffusé sur France 3.
Sans avoir à piller l'océan, on peut aussi en tirer parti, je dirais, parce que c'est notamment une source de molécules très très intéressante. Il y a une chimiodiversité très importante dans l'océan. Le cône, qui est un petit coquillage qui va avoir un venin extrêmement puissant pour paralyser ses proies, on s'est rendu compte que cette molécule extraite du cône, on va pouvoir l'utiliser comme antalgique, antidouleur, qui est beaucoup plus puissant que la morphine.
Nadia Améziane, vous voulez réagir à ce cône, à ce petit coquillage aux effets antalgiques, parce que je sais que vous avez aussi mené des recherches sur d'autres molécules présentes dans la mer, dans les grands fonds.
Alors je vais corriger, c'est pas moi qui ai mené, c'est en association avec des chimistes.
D'accord.
Moi, tout ce que ma contribution a été de découvrir des espèces, c'est ce que disait tout à l'heure Sarah, c'est-à-dire qu'on découvre des espèces nouvelles pour la science, et quand on a la chance d'avoir ces espèces nouvelles qui arrivent à bord du bateau avec un nombre de spécimens important, on va passer une partie de ces spécimens à nos collègues chimistes qui vont faire un screening en fait, des molécules qui à l'intérieur de cet animal, et il s'avère que il y a eu un crinoïde pénoculé au doux nom de Gymnocrinus, qui a été découvert en Nouvelle-Calédonie et qui a permis de mettre en évidence une nouvelle molécule qui s'appelle le gymnochrone et qui est actuellement à la base d'un vaccin pour traiter la dengue. Donc des exemples comme ça, j'allais dire le cône des venins, ce petit Gymnocrinus. Il y en a des quantités incroyables. On a, même sans aller dans les grandes profondeurs, on a un petit animal qui s'appelle un bryozoaire qui est très fréquent sur nos rivages, qui a une molécule qui est un candidat prometteur pour la maladie d'Alzheimer. Et il y en a une liste très longue, il y a un catalogue très long de possibilités, d'où le message de préserver la biodiversité. J'allais dire, c'est un petit peu un message vendeur, mais l'homme a intérêt de préserver cette biodiversité parce que, j'allais dire, l'avenir de l'homme en dépend.
Sarah Samadi, j'imagine que vous partagez le point de vue de Nadia. C'est vrai que c'est, plutôt que de dire attention, il faut absolument préserver, de dire que c'est un océan de promesses et qu'on n'a pas découvert la moitié du quart de tous les antalgiques et autres vaccins possibles que pourrait receler l'océan. C'est une manière de nous aider à le protéger, alors, peut-être, à le préserver.
Alors, c'est justement, je pense, donc Anne-Camille parle, elle dit le cône avec une toxine. En vérité, ce groupe des cônes, c'est.
Donc, ces coquillages.
C'est des coquillages
en
forme de cône, tout à fait. Et c'est un groupe très, très diversifié. C'est un des groupes de mollusques les plus diversifiés. Donc, ce sont des prédateurs qui utilisent comme technique de chasse le fait de paralyser leur proie grâce à un venin. Et donc toute cette diversité, cette grande diversité d'espèces est associée à une grande diversité de molécules. Et c'est intéressant de connaître cette diversité parce qu'on va pouvoir trouver toutes les innovations que les cônes ont déjà fait pour paralyser leur proie, et avec de nombreuses applications médicales. Donc ça, c'est clair que c'est une piste intéressante. Dans les gens qui travaillent sur les cônes, donc il y a un chercheur dans mon équipe, par exemple, qui travaille sur cette diversité, on s'intéresse à reconstruire l'histoire évolutive et de voir justement quelles sont les branches qui présentent tel ou tel type de choses et d'essayer d'orienter un peu où est-ce que ce serait le plus intéressant d'aller regarder pour avoir des choses nouvelles, en fait.
Je sais que vous allez bientôt repartir pour une expédition en Nouvelle-Calédonie, c'est ça, en septembre ?
Tout à fait, on va en Nouvelle-Calédonie et l'objectif de la mission qu'on fait en Nouvelle-Calédonie, c'est justement d'aller aux frontières de ce qu'on sait. On a beaucoup été en Nouvelle-Calédonie ces 40 dernières années, on a beaucoup travaillé sur le milieu profond, mais pas tellement au-delà de 1000 mètres, parce qu'on a des petits moyens, des petits bateaux qui peuvent aller pêcher jusqu'à 1000 mètres.
Vous allez pouvoir descendre plus profond que 1000 mètres.
Voilà, donc là, on va faire deux choses différentes. On va faire... On va avoir un plus gros bateau, c'est un bateau de l'Ifremer qui s'appelle la Talente, qui est plus long, qui fait plus de 80 mètres de long et qui permet de déployer des engins jusqu'à plusieurs milliers de mètres. Et on va faire des images aussi de ces milieux.
À suivre, on pourrait consacrer encore une heure. Merci en tout cas infiniment. Merci Sarah Samadi, merci Frédéric Schlous, on aurait aimé vous entendre encore. Merci Nadia Améziane d'avoir été par Skype avec nous depuis votre station biologique marine de Concarneau. Je vous rappelle, chers amis auditeurs, que si vous passez par Paris, vous avez le temps, c'est d'ici au 5 janvier 2020, ne manquez pas l'exposition immersive du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, Océan, une plongée insolite. Je vous signale aussi la réédition d'un ouvrage très complet et très beau intitulé « Des mondes marins, un voyage insolite » aux éditions du CNRS et du Cherche Midi. Vous revenez quand vous voulez, mesdames.
Merci. Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain sur la Terre ferme, chers amis auditeurs, pour nous interroger une nouvelle fois sur le vivant, mais cette fois-ci avec le biochimiste Marc Fontcave, professeur au Collège de France. Autour de la question, quelle chimie du vivant et pour le vivant, avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brault, oui, Juliette Brault le retour en coulisses. Merci de votre fidélité. Surtout, restez curieux, chers amis auditeurs. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure d'un prochain journal.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.